destination. They keep the same direction. Do you feel safe, unsure, and malnourished? And keep it to yourself. Is it just your problem? Or is it ours as well? So what's the point of what's the deal for us? As in heaven and hell. So keep on fighting, keep on marching, keep sticking it to you. Cause once I'm blizzard, I'm 42. I'm concerned and that's the truth. So hey, today's gonna be our day. Whoa, there's no waiting for tomorrow. Mister, or you gotta fall behind. Cause we're the young generation, one of a kind. It's like a unity in this divided world. But I'm not trying to preach the nation or be misheard. So don't stop talking, don't stop listening. I don't wanna be the same. Cause life seems to be on a border. We're gonna change the game. Today's gonna be our day. Whoa, there's no waiting for tomorrow. Wait, today's gonna be our day. Whoa, there's no waiting for tomorrow. Are we enough? I know it's cruel, I know it's tough, but do we feel the shame? After all, climate change, what is supposed to blame? So what you gonna do? Sat here waiting to make a move. Oh, we are so great. Strike while the iron's hot, so we'll be late. We'll be late.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off. Chaque fois qu'une espèce disparaît, c'est un bout de nous qui disparaît avec elle. Quand on voit disparaître les alouettes ou qu'on voit disparaître des espèces de végétaux, c'est plus qu'un bout de nous qui disparaît. On fait partie de ce tout. On est un tout petit bout de ce tout.
Jean-Jacques Guillet, l'un des co-porte-parole de Bassine Non Merci et des soulèvements de la Terre.
Les fourmis nous survivront, la nature nous survivra. On n'est rien du tout là-dedans, nous. On ne l'a pas compris. On imagine qu'on maîtrise tout, on ne maîtrise rien. On n'était pas là les premiers. Quand on représente l'humanité sur une pendule, c'est inexistant. Et on a été capable, en moins d'un siècle, de tout bousiller. On a été capable d'empoisonner le ciel, les sols. On a été capable de créer le nucléaire avec des capacités de destruction de la Terre entière. Il n'y a pas de quoi être fier, non.
Jean-Jacques Guillet, on l'a rencontré le 4 mars 2026 devant le tribunal de Poitiers où comparaissait Julien Leguet, l'un des porte-parole de BNM, Bassine Non Merci. Où l'on a aussi retrouvé Hervé Auguin, l'un des porte-parole du syndicat solidaire. L'audience de ce 4 mars est lunaire. Julien Leguet est cette fois accusé, parfois sans preuve, d'avoir emprunté une pelle à grains cassés, fait des graffitis à la craie et au feutre effaçable Velleda, et toujours cette confusion entre porte-parole et organisateur, ce qui était déjà le cas lors du procès de décembre 2025, où Hervé, Julien et deux autres porte-parole étaient indûment accusés d'être organisateurs d'une manifestation interdite contre une bassine interdite depuis. Salut les amis, c'est JBD pour Polémique, c'est la voix off.com et pour votre radio libre préférée. 3 ans après Sainte-Soline, malgré les procédures Bayon, c'est toujours No Basaran. À la sortie du tribunal de Poitiers, on rencontre à nouveau Hervé Auguin. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Sud solidaire.
Sud solidaire de Sèvres. Donc nous venons de passer 3 heures dans cette salle d'audience et il a été beaucoup question de Pellegrin, de Velleda.
Les petits feutres qui s'effacent facilement.
D'un graffiti à la bombe à la craie,
oui.
Rapidement effacé par les services techniques de la ville de Niort. Qu'as-tu pensé de ces 3 heures que nous devons passer ensemble?
Je crois le ressenti global de tous les camarades qui ont assisté. Moi, la dernière fois, j'étais face à la juge, j'étais à la place de Jules. Là, j'étais spectateur et j'ai trouvé une juge partiale. D'ailleurs, l'avocat de Julien, Pierre, lui a demandé d'être dans ses propos un peu plus objectifs. C'est son rôle quand même. Une avocate générale, niveau très très bas en termes de l'équivalent de la plaidoirie. Puis l'avocat de la partie civile qui a fait un long hialus qui était hors sujet, qui parlait du contexte, mais c'est pas ça le sujet.
Qui en parlait mal en plus. Hein,
oui.
Les bassines, c'est formidable, voilà. C'est pour vous agréer.
Il y a beaucoup d'approximations, voire de mensonges, mais bon. Pierre Hurier, l'avocat de Jules, il a recadré le sujet et puis il a démontré que soit il n'y avait rien, soit il y avait presque rien. Ils étaient à côté de la plaque, quoi. Voilà, on a une nouvelle image de la répression, c'est-à-dire la saturation judiciaire. On convoque. Les enquêtes sont mal menées par la police. Il y a une photo où on voit rien, mais c'est peut-être Julien
qui aurait fait le tag.
Là, il y a une pelle qui est cassée, qui l'aurait volée. Bon, c'est lunaire. Franchement, c'est lunaire.
On pourrait parler de harcèlement, d'étouffement, d'épuisement.
Mais ça fait partie du schéma répressif, je pense, qui est en face. Il y a des gens qui ne savent pas répondre sur le fond. Alors, ils essayent de nous empêcher de nous exprimer sur la forme, en convoquant sur des dossiers qui sont creux, quoi. Alors aujourd'hui, c'était particulièrement visible et évident.
Et on retombe aussi sur un débat qu'on a eu le 3 décembre dernier dans ce même lieu, où là tu étais convoqué avec 3 autres, donc des soulèvements de la terre, de la CGT et Julien. Et on retombe en fait sur cette confusion entre le rôle de porte-parole d'une organisation, c'est-à-dire celui ou celle dont la tête dépasse, et organisateur ou organisatrice. Donc là, en l'occurrence, Bassine Non Merci, c'est la tête de Julien Le Guay qui dépasse parmi les têtes d'autres porte-parole. Et on transforme le porte-parole en organisateur et en grand chef. Une espèce de logiciel, faut qu'il y ait des chefs.
Ça, c'est révélateur.
Et de choc de culture.
Oui. Le problème, c'est que ça a des conséquences en termes de droit. Quand vous avez en face de vous des prises de décision très verticales, comme c'est le cas à la préfecture ou à la gendarmerie ou à la police, ils n'envisagent pas que en face d'eux, ils peuvent avoir des organisations, des syndicats, des collectifs dont la position est horizontale.
Tu es en train de dire que tu n'es pas le chef de Solidaire.
Non, puis ça m'embêterait. Mais ça, c'est un vrai sujet. Après, effectivement, organisateur, porte-parole, participant, ça a déjà été un peu jugé parce qu'on a été condamné par la cour d'appel, David, moi, pour Solidaire et la CGT. Je me suis pourvu en cassation, donc j'espère que ce biais-là me permettra d'être innocenté. Et puis, le sujet de fond, c'est toujours et ça reste toujours la liberté de manifester et la liberté d'expression. C'est un sujet fondamental. La France, avec tout ce qui s'est passé dans le cadre de la lutte contre les méga-bassines, pas simplement dans ce cadre-là, mais notamment dans ce cadre-là, se fait taper sur les doigts, le pays, la France se fait taper sur les doigts par rapport à la liberté d'expression, la liberté de manifester qu'elle est censée encadrer sur le territoire par des structures internationales comme notamment la FIDH, mais aussi je crois que l'ONU avait posté des alertes en disant attention, l'État français, c'est pas bon. Vous n'êtes pas sur la bonne voie en tous les cas. On le voit, les camarades qui sont convoqués en appel pour Sainte-Soline 2, ce sera aussi le sujet, effectivement un sujet grave qui est le maintien de l'ordre et puis les violences policières, qui est un sujet fondamental aussi et qui doit, avec tout ce qu'on voit, pas simplement dans le cadre de la lutte contre les méga-bassines, est tragique, quoi. Mais ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui.
C'était le procès, effectivement, d'un des porte-parole de Bassine Non Merci.
Oui. Un des porte-parole, effectivement.
Par extension, on assiste aussi à une répression du mouvement syndical. C'est qu'il ne s'agit pas seulement de taper sur la tête des écolos, mais de tout ce qui bouge, de tout ce qui conteste, et évidemment des syndicats.
Oui, alors nous, on fait partie de ces structures qui contestent, qui ne sont pas d'accord avec ce que portent les politiques depuis des années, que ce soit au niveau social, au niveau environnemental. Mais je vais prendre un exemple. On porte des valeurs, des luttes internationaliste. Nous, à Niort, on est dans le collectif Palestine. Tous les samedis, en solidarité avec le peuple palestinien qui est génocidé depuis plusieurs mois, on se réunit. On lutte pour l'autodétermination, la liberté des peuples à choisir. On est culpabilisé, on est traité d'antisémite parce qu'on n'est pas d'accord avec la politique sioniste suprémaciste actuelle portée par le gouvernement israélien. Et on voit qu'ils veulent légiférer pour que, quand on est antisioniste, y a un égal avec antisémite. On n'est absolument pas d'accord avec ça, évidemment, et on trouve ça scandaleux. Ça fait partie de la répression, une des répressions qu'on subit.
Retour au cauchemar des méga-bassines, c'est pas seulement en Poitou-Charentes. Des bassines, il y en a en projet ou déjà à l'œuvre partout sur le territoire national. Et notamment dans l'Hérault, d'où vient Stan, de Bassines Non Merci 34, contre les bassines et aussi contre un embouteilleur d'eau. Bonjour Stan.
Bonjour. Je suis de Bassines Non Merci 34, Coordo 34. Collectif qui luttons contre les projets de méga-bassines en Hérault, mais également contre le projet d'usine d'embouteillage à Montagnac. Et on s'intéresse aussi à la question de la qualité et de la quantité d'eau en Hérault.
Quand tu dis Coordo, coordination de plusieurs acteurs, Confédération Paysanne, gens comme ça.
Oui, on est peut-être une trentaine de signataires. Il y a autant des partis politiques que des syndicats, que différentes organisations un petit peu en tout genre, mais aussi des citoyens, des citoyennes. Toute personne intéressée peut nous rejoindre. Et notre objectif, en fait, c'est de se coordonner d'abord à l'échelle du département. Donc on essaie de faire un triangle entre l'Odève, Montpellier et Béziers. Essayer de se coordonner avec les départements alentours, en fait sur le pourtour méditerranéen, on va dire déjà le golfe du Lion avec le Gard, l'Hérault et l'Aude. On a des problématiques très similaires par rapport à aux pénuries d'eau et aux problèmes de qualité d'eau.
On parle peu de l'embouteillage, une industrie épouvantablement polluante, pareil, qui s'accapare un commun vital qui est l'eau, qui en plus pollue avec le plastique.
En Hérault, il y a à Montagnac donc un projet d'usine d'embouteillage porté par le groupe Alma CGES, donc en fait c'est Vichy, Saint-Yor, Cristaline, et ils ont le projet d'utiliser un ancien forage de 1500 mètres de profondeur pour installer à côté une usine de 15 000 mètres carrés qui produirait plus d'un million de bouteilles d'eau par jour, avec tous les allers-retours de camions qui vont avec, donc à peu près 80 allers-retours de camions sur des petites routes de campagne, on va dire. Tout ça au-dessus de la lagune de Thau, qui est un des principaux bassins producteurs d'huîtres en France. Et on imagine un peu les pollutions que tout ça générerait, en plus de ce qu'il y a déjà actuellement. Nous, on s'appelle la Coordo 34. On a rejoint l'Inter-BNM, en fait. Donc, on essaye de se retrouver à l'échelle nationale avec les différents bassins non merci, en fait, qui sont répartis sur différents territoires en France. Dernièrement, on a réalisé une carte du territoire national métropolitain pour faire une actualisation des différents projets de bassines entre ceux qui sont en projet, ceux en chantier, les bassines en activité, les bassines illégales, les bassines débâchées, voir où en sont les stratégies de l'État par rapport à l'installation de ces projets totalement mal adaptés par rapport aux différentes problématiques agro-industrielles, réchauffement climatique.
Y a-t-il un projet de méga-bassine dans l'Hérault ?
Il y a le schéma irrigation 2018-2030 porté par le conseil départemental de l'Hérault. Ils ont eu l'idée au départ de construire 22 bassines en Hérault qui seraient alimentées par l'eau du Rhône via le canal Philippe Namour qui transfère l'eau du Rhône jusqu'au port de Montpellier. Puis ensuite le projet Aqua Domitia qui est une conduite d'eau qui amène de l'eau jusqu'à Narbonne. Donc ça traverse, on va dire, du Gard jusqu'à l'Aude en passant par l'Hérault. Et c'est une conduite avec beaucoup d'adducteurs d'eau qui permettent d'irriguer des cultures ainsi qu'apporter de l'eau potable, enfin qu'il faut potabiliser. Ce tuyau a vu le jour ces 10 dernières années. Il faut bien le rentabiliser. Ce serait de construire des méga bassines. Au départ de 22 bassines, aujourd'hui, il n'y a plus que 4 projets de bassines, dont seulement 2 actés pour une construction immédiate. Et si les projets advenaient, il y aurait une construction en 2028.
Donc là, il ne s'agit pas de pomper l'eau des nappes phréatiques, mais de détourner celle du Rhône.
Le conseil départemental met en avant cet argument. Ce ne sont pas des bassines, mais des retenues hivernales. Pas question de prendre la nappe phréatique, mais dans la ressource du Rhône en hiver avec la fonte des glaciers, où en fait le débit du Rhône en hiver est vraiment énorme et l'eau qui serait ponctionnée serait infime en comparaison de la quantité. Mais le département argumente aussi sur le fait que cette eau ne serait pas perdue à la mer. Donc ils n'ont pas très bien compris comment fonctionnent les différents cycles de l'eau avec la question des zones humides, ce genre de choses. Et surtout le delta du Rhône au niveau de la Camargue est en train de se remplir de sel, de vase. C'est une catastrophe écologique majeure qui est en cours.
C'est un truc qui a pu être observé aussi sur la Loire. En fait, c'est quand le débit est moins fort, bah, du coup, c'est l'océan, l'eau salée qui rentre dans les terres, qui donc bah, les stérilise. Enfin, il y a eu un moment d'ailleurs où on a craint en région nantaise de plus pouvoir boire l'eau du robinet parce qu'elle aurait été saumâtre. C'est ça que vous craignez, vous, avec le Rhône aussi.
C'est une problématique où le biseau salé, donc la quantité de sel qui rentre, va jusqu'à plus de 60 km dans les terres. Et on trouve même des dorades au niveau de Beaucaire, à des dizaines de kilomètres dans le fleuve. Mais nous, en ce qui concerne l'Hérault, en fait, cette eau serait destinée donc à remplir deux mégabassines qui feraient 940 000 m3 et 770 000 m3. En comparaison, Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, c'est 650 000 m3. Là, on est en fait sur quasiment des gigabassines qui atteindraient le million de m3. Et toute cette eau servirait notamment à la production de raisins pour une production viticole. Parce que dans les régions où sont implantées les mégabassines, 85% des terres cultivées sont de la vigne. En Hérault, la vigne est en surproduction. En 2020 et 2023, il y a eu 200 millions d'euros déboursés de subventions publiques pour distiller l'excédent en vin. Donc ça, c'est à l'échelle nationale. 200 millions d'euros à l'échelle nationale par deux fois. Et en 2023 et donc 2024 pour les subventions, 88 millions d'euros étaient destinés au Languedoc-Roussillon, dont 45 millions pour l'Hérault. En sachant qu'aujourd'hui, les caves où le vin n'a pas pu être distillé, donc l'alcool blanc sert après aux industries pharmaceutiques, cosmétiques et d'autres, le vin est toujours en fait dans les caves coopératives. Le département explique qu'il y a beaucoup de vignes sur ces terres, mais que la vigne, face au réchauffement climatique, ne pourra pas tenir des décennies. En parallèle, il faut en fait diversifier les cultures. Donc le département prône le fait que l'eau servira à diversifier les cultures. Quand on leur demande précisément où, quand, comment et combien il y aura de diversification, c'est quelques hectares par-ci et puis après... En tout cas, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de diversification. Mais on voit bien que les mégabassines sont destinées à une minorité d'exploitants qui ont les moyens d'accéder à cette eau et que tous les autres en fait, ne l'auront pas. Entre 70 et 85% de l'eau sera destinée à la viticulture. Donc en fait, les mégabassines en Hérault servent à entretenir un modèle agro-industriel viticole qui se base sur des estimations. La consommation de vin est en baisse, les exportations internationales sont en baisse et la vigne est en surproduction. Dans cette contradiction majeure, la logique du département et de la région, c'est de mettre des mégabassines.
Est-ce que c'est un vieux projet? Comment est-ce que toi, par exemple, tu en as eu vent? Qu'est-ce que votre collectif a pu faire déjà contre?
La Cordo 34 s'est créée suite à Sainte-Soline 2 en mars 2023. On s'est créé en juin 2023. J'ai découvert le sujet à ce moment-là. Je me suis rendu compte qu'en fait les bassines s'inscrivaient dans un schéma d'irrigation beaucoup plus large, avec notamment le projet Aqua Domitia. C'est le tuyau qui traverse l'Hérault et jusqu'à l'Aude et qui ramène l'eau du Rhône. Et donc ce tuyau qui a été construit ces 10 dernières années a besoin d'être rentabilisé et sert en fait ce genre de projet d'irrigation. La région a porté ce projet en se disant que grâce à cette eau, pourrait sauver la région. Donc effectivement, il peut y avoir des avantages sur le fait que on a moins de problèmes d'eau que dans les Pyrénées-Orientales par exemple, ou dans l'Aude. Mais en fait, on est complètement dépendant de la ressource du Rhône qui va, avec le réchauffement climatique, s'amoindrir dans les années qui viennent. Et un projet qui traverse un département en séparant le littoral des débuts des montagnes des Cévennes coupe en fait un territoire en deux. Donc toutes les logiques par bassin versant, de réflexion de comment aménager les territoires le plus intelligemment possible pour retenir l'eau qui tombe annuellement, parce qu'il tombe de l'eau en Hérault à peu près, on va dire, entre 500 et 600 mm d'eau par an, on pourrait la retenir avec peut-être des retenues collinaires, après c'est en fonction du type de sol, de la géologie, en fonction du type de relief, il pourrait y avoir des réflexions plus intelligentes qui mettent en relation les acteurs sur le terrain. Sauf que là, en fait, c'est un gros tuyau qui passe, qui est géré par une entreprise semi-privée au service de la région et qui va permettre d'approvisionner en eau une minorité d'acteurs qui sont les plus gros exploitants et qui vont ensuite pouvoir, comme d'habitude, racheter les terres des plus petits exploitants avec une logique d'accaparement foncier, d'accaparement d'eau. Une logique capitaliste comme on les connaît bien.
Ou une production agricole dont on n'a pas besoin.
En plus de ça. la crise viticole en fait touche bien plus que les agriculteurs, puisque ben, on parle vraiment de la configuration des territoires. Et aujourd'hui, il faut revoir impérativement soit la question de une transition agricole, parce que si on veut pouvoir s'adapter au réchauffement climatique pour 2050, il faut dès maintenant mettre en place de nouvelles filières qui mettront entre 20 et 30 ans à se mettre en place, avec toute la logique de régénération des sols, où après des décennies, voire plusieurs siècles de monoculture intensive en vigne, la qualité des sols laisse à désirer. Surtout s'il y aura un sol de garrigue où il y a très peu de sol. Si en tout cas il faut mettre des choses en place, il faut les mettre dès maintenant.
Du coup, vous, la Cordeau, vous agissez comment ?
On essaie de sensibiliser autant qu'on peut. On produit de la documentation qu'on met en ligne ou sinon sous forme de 4 pages de brochures qu'on distribue. On organise des manifestations. On en a fait une le 24 mai 2025 à Montpellier où il y avait une quarantaine de signataires et on l'a co-organisé avec différentes organisations alliées. On essaye aussi de sensibiliser au sujet. Pour être sensible à quelque chose, il faut se représenter cette chose. Sauf qu'en fait, les questions d'eau aujourd'hui sont assez marginales, à part le fait où la propagande du département dit souvent s'il est limité la consommation d'eau en faisant pipi sous la douche. Quand on voit comment l'eau est gérée au niveau soit industriel, soit agricole, on se rend compte que dès que le département peut éviter de parler de viticulture, eux, ça les arrange. Donc nous, on essaie justement de sensibiliser le plus possible sur ces problématiques. Bah, aujourd'hui, on va dire qu'il y a encore en majorité de l'eau au robinet partout en Hérault. Donc dans certaines petites communes, dans les hauteurs de l'Hérault, il y a des pénuries d'eau qui peuvent durer tout l'été.
Ça veut dire quoi, camion-citerne qui vient livrer l'eau aux habitants ?
Ouais, camion-citerne. Donc après, on est encore dans des logiques où des acteurs publics peuvent apporter de l'eau avec des formes d'entraide entre les collectivités. Mais quand on voit comment ça se passe, par exemple en Sicile, où il y a des pénuries d'eau monstres avec des acteurs privés qui commencent à apporter de l'eau aux plus offrants, on se dit que dans 10 ans, on n'a pas du tout envie de se retrouver dans de telles situations. Et donc, on essaie de sensibiliser à ces problématiques, que ce soit en politisant la problématique, donc pas juste des actions individuelles, mais des actions collectives, concertées, les plus démocratiques possibles, et en expliquant bien aux gens qu'en fait, aller à une concertation publique organisée par le département, c'est juste, on vous a entendu, mais on va quand même faire ce qu'on veut. Si vous posez des questions un peu gênantes, on va expliquer qu'on ne peut pas discuter avec vous, parce que vous n'écoutez pas les arguments du département, vous abondez pas dans le sens des pouvoirs. Et donc après, on essaie de s'informer en lisant des rapports autant scientifiques que comment avoir des actions juridiques. Et puis après, on verra au fur et à mesure du projet à quel degré d'intensité faut monter.
Dans tout ce que tu viens de livrer, c'est qu'il y a déjà, et depuis quelques années, sur le territoire métropolitain, des endroits et des moments où l'eau n'arrive plus au robinet.
Ouais, dans les hauteurs de l'Hérault, il y a vraiment ce genre de problème où il y a eu différentes choses. Soit c'est vraiment la source qui se tarit, soit c'est une pollution qui débarque d'on ne sait pas trop où, et c'est très difficile de savoir exactement. À Saint-André de Saint-Gonis, c'est un village, pendant 2 ou 3 semaines, la mairie a distribué un pack d'eau quotidien à chaque personne, parce que l'eau d'un coup est devenue du jour au lendemain impropre à la consommation. Quand on fait des recherches sur internet, c'est très difficile de savoir exactement ce qui s'est passé.
Vous faites des réunions d'information auprès des citoyens, citoyennes, du public ?
On fait des réunions de temps à autre. Comme tout ça en fait est assez nouveau, il faut comprendre un peu les logiques du département, de la région, dans quel cadre socio-historique et politique s'inscrivent les projets de bassines. On essaie d'abord de se documenter pour avoir le plus d'informations, et après on essaie d'informer les gens en y allant petit à petit.
Et les quelques fois où vous l'avez fait, comment les gens reçoivent-ils l'information ?
Bravo, continuez. Souvent en fait les gens sont très intéressés parce que c'est des problématiques, autant les bassines en général ont été très mis sur le devant de la scène avec Sainte-Soline, donc les gens sont plutôt au courant du mot méga bassine. Après, qu'est-ce qu'il y a en dessous, l'agro-industrie, le modèle, le business agro-industriel, ça c'est déjà un peu plus compliqué. La problématique viticole est assez spécifique à l'Hérault, donc là c'est encore autre chose. On n'est pas sur des grandes surfaces céréalières ou de maïs, on est sur des petites parcelles viticoles. Et après, la problématique avec l'eau, en fait, c'est le côté comprendre les logiques institutionnelles de l'eau. C'est un millefeuille administratif, ça peut être rebutant au début. Et après, il faut rentrer dans des logiques de collectif où on co-construit ensemble, c'est sur le temps long, en fait. Mais tout ça se construit et on est là. On attend, en fait, le dossier d'étude d'impact environnemental autour des méga-bassines qui va définir le cadre de la concertation publique qui va suivre. Donc là, on se prépare en fait au tout début de la lutte, en sachant qu'il y a eu d'autres projets autour de Montpellier. Par exemple, un périph' autoroutier où il y a eu une concertation publique avec 82% d'avis défavorables, une étude d'impact environnemental défavorable, et le maire de Montpellier ainsi que le préfet ont dit on continue, on impose le projet. Et aujourd'hui, il y a un énorme trou dans la garrigue avec ce périphérique autoroutier qui est en train de se construire. Donc on n'est pas naïf sur le fait que le conseil départemental va savoir retourner la chose comme il faut pour imposer ces méga-bassines. Et donc à partir de là, on va continuer de se renseigner, on va prochainement, dans les mois qui suivent, quand on aura plus d'infos, faire une nouvelle réunion publique et construire au fur et à mesure.
Il faut aussi avoir le courage de se mettre le nez dans le jargon juridique, scientifique, apprendre des nouvelles choses, parler la bonne langue devant des instances. Ça, c'est du temps de cerveau disponible aussi, comme disait l'autre.
Ouais, moi, je dis souvent, je ne connaissais rien à tout ça en arrivant. Et après, j'adore me documenter. Et le temps de la lutte concrète, physique, si on parle de ZAD ou ce genre de choses, ça viendra dans un second temps. Là, pour l'instant, on en est vraiment au tout début de la lutte. Et justement, le fait de monter l'inter-BNM en parallèle, ça permet en fait de rencontrer des personnes qui sont déjà passées par là. Bah, ça sert en même temps de modèle, ça sert d'entraide. C'est essentiel, effectivement, quand on commence à être un petit peu fatigué avec un petit coup de blues, ça remonte le moral et c'est reparti.
Il y a 9 bassines derrière chez moi, mais il n'y en aura pas une. De ces bassines, on n'en veut pas, de ces bassines, il n'y en aura pas.
De ces bassines, on n'en veut pas, de ces bassines, il n'y en aura pas.
Il y a 9 bassines derrière chez moi, mais il n'y en aura pas une.
Bassines derrière chez moi, mais il n'y en aura pas une.
Il y a 8 bassines derrière chez moi, mais il n'y en aura pas une.
8 bassines derrière chez moi, mais il n'y en aura pas une.
Il y a 8 bassines derrière chez moi, mais il n'y en aura pas une.
8 bassines derrière chez moi, mais il n'y en aura pas une.
De ces bassines, on n'en veut pas, de ces bassines, il n'y en aura pas.
De ces bassines, on n'en veut pas, de ces bassines, il n'y en aura pas.
Il y a 8 bassines derrière chez moi, mais il n'y en aura pas une.
8 bassines derrière chez moi, mais il n'y en aura pas une.
Il y a 7 bassines derrière chez moi, mais il n'y en aura pas une.
7 bassines derrière chez moi, mais il n'y en aura pas une.
Il y a 7 bassines derrière chez moi, mais il n'y en aura pas une.
7 bassines derrière chez moi, mais il n'y en aura pas une.
De ces bassines, on n'en veut pas, de ces bassines, il n'y en aura pas.
7 bassines, on n'en veut pas, de ces bassines, il n'y en aura pas.
4 mars 2026, dans la cour du tribunal de Poitiers, lui aussi venu assister à cet énième procès de Julien Leguet, il y a cet homme que vous aurez peut-être vu témoigner dans le film Soulèvement, et on l'aura aussi vu en vidéo dans une alerte de catastrophe depuis le lit d'une rivière assassinée, à sec, et dont les poissons avaient le ventre à l'air.
Bonjour, je suis Jean-Jacques Guillet. Un des porte-parole de Bassine Non Merci, au même titre que Julien. Tout ce qu'on lui reproche, on devrait me le reprocher à moi aussi.
Donc tu serais potentiellement aussi auteur de ce graffiti à la craie et du vol de cette pelle à grains cassée.
J'étais présent, je me déclare coupable de cette pelle à grains cassée, qui d'ailleurs n'a pas été volée puisqu'elle est restée sur place. C'est bien parce que si cette fameuse coopérative se remet à travailler avec une pelle à grains, ça veut dire qu'ils sont passés à un stade où ils deviennent plus raisonnables. Je ne pensais pas qu'ils utilisaient encore des pelles à main.
Tu as aussi été élu dans ton parcours.
Dans mon parcours, oui, j'ai bientôt 75 ans, donc je commence à avoir effectivement un parcours. J'ai été maire de ma commune pendant 19 ans. Une commune du Marais Poitevin, la commune d'Amuret. C'est à côté de la Garette, de Coulon, Saint-Hilaire, Mauzé. Élu maire de cette commune pendant 19 ans, élu pendant 33 ans. Vice-président de l'agglomération niortaise, président de la régie des déchets. Les déchets, ce n'est pas le même dossier clos, mais il y a beaucoup de points communs. On retrouve un peu les mêmes lobbies. C'est une partie de mon parcours, oui.
Alors évidemment, bassines non merci, on parle beaucoup des bassines, mais finalement ce n'est hélas qu'une porte d'entrée vers ce qu'on appelle l'agro-industrie.